C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
RMC.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot, Nicolas Villas.
En compagnie de Ludovico Bragnac, de Jonathan Maccardi et Simone Rovella, nous a rejoint. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Comment va Simone? Je t'ai pas revu, tiens, depuis le 8ème de finale retour de Ligue des Champions. L'homme qui m'avait attaqué sur les réseaux sociaux. La Roma, ça, tu connais ça? C'est pas une peine de me regarder comme ça, mon pote.
Ah, mais il y avait pénalty sur Chic. Le mec, il se fait effleurer comme par une mouche, mais il y avait pénalty.
On va revenir dans les infos du jour. Alors, c'est assez rare, mais l'UEFA a communiqué sur les décisions de l'assistance vidéo.
Je veux pas parler de l'arbitrage.
J'ai vu que t'en avais contre Florenzi, quand même.
Ouais, donc.
Hein, Florenzi, il a fait. C'est une saison très compliquée pour lui. Et là, je suis souvent désolé pour tout ce qu'il a vécu sur les réseaux sociaux ces derniers jours parce que c'est trop. Bon.
Tiens Simonet, parce que je sais que ça t'intéresse et qu'on n'a pas encore fait les résultats de Ligue 2, 28e journée
ah oui.
Ligue 2. Un partout entre Clermont et Grenoble, El Béziere qui a fait un partout contre Le Havre, Valenciennes, qui a... alors grosse surprise, hein, ils ont gagné 5-2 à Breccio, Bresto bien sûr, 2-2 entre Orléans et El Gazzereco d'Ajaccio. Là c'est Ajaccio a fait 0-0 avec la Estrella Ron, comment tu dis rouge?
Rosso.
Et toi, tu dis comment?
Stella Rossa.
Stella Rossa. L'Oriento, qui a perdu 3-2 à Nancy. Ça, c'est une belle surprise. 0-0 entre le PFC et Niort. Et l'Estac, 3 s'est imposé 1-0 face à Châteauroux. 3 qui est en train de faire une petite remontada au classement également. On a Metz qui est leader avec 57 points. Brest, 2e avec 54 points. Lorient, 3e avec 49 points. Le PFC, 4e avec 47 points. Lens, 5e avec 45 points. 3 et 6e avec 45 points également. Et ensuite, on a Orléans qui est 7e avec 41 points. Et puis en bas de classement, on trouve le Red Star dernier avec 22 points, avant-dernier Béziers 23 points, 18e et barragiste Sochaux 25 points et Nancy est 17e avec 29 points. Voilà, ils ont un petit matelas maintenant, les Nancyens qui étaient complètement largués. Autre résultat de la soirée, l'Athletic Bilbao et l'Espagnol ont fait match nul un partout. Match de dingue entre le Werder et Schalke 04, victoire 4-2 du Werder. Schalke est complètement à la rue au classement.
Mal, hein.
Ouais, ils jouent ils sont 8e de finale de Ligue des Champions. Ils ont perdu 3-2 face à City, on le rappelle. Ils sont 14e au classement, Schalke 04. Et puis le résultat que vous kiffiez, il reste 20 minutes à jouer entre Chavez et Rio Ave.
Alors ?
Et ils ont égalisé.
Eh ben non. Rio Ave réduit à 10, mène 1-0 face à Chavez.
Okay.
Pas fort hein, pour
à la bonne heure.
Pour Chavez.
À la bonne heure.
Résultat en Serie A également ce soir. La Juve s'est imposée 4-1 face à l'Udinese et Simone. Et mardi, il y a Juve et Atletico en Ligue des Champions. 8e de finale retour de Ligue des Champions. On rappelle qu'il y a eu 2-0 à l'aller hein, pour les Colchoneros.
Ça aura plus d'équipe mardi en Ligue des Champions.
Pourquoi?
Bah, c'est fini.
Mais non, c'est pas fini. Tout est possible. Cette Ligue des Champions nous a montré des choses incroyables. Pourquoi s'arrêter ça?
Parce que c'est l'Atlético.
Bah, et l'autre c'était le Real, et l'autre c'était le PSG, l'autre c'était le Manchester.
Non, tu mets le PSG dans la même phrase.
C'était le Manchester avec l'équipe ou 23.
Tu compares pas le PSG et l'Atlético, sérieusement. Sérieusement.
Ouais,
non.
Tu compares pas les Manchester City ou 23 avec la Juve, donc.
Mais non, mais l'Atlético, c'est déjà dur leur mettre un but, qu'est-ce que tu veux leur mettre 3?
Victoire 4-1 de la Juve face à l'Udinese, il a fait tourner, ce soir, Allegri.
Énormément.
Et Moïse Kean a bien doublé.
J'ai dit que ce soir, j'ai vu l'avenir. Qui s'appelle Moïse Kean.
Ça fait un moment qu'on en parle de lui en Italie.
Les jeunes, après il doit jouer. Il a fait 2 matchs titulaires, un en Coupe d'Italie et l'autre en championnat. Il a marqué 3 buts. Donc, c'est vrai qu'il jouait dans l'équipe plus forte d'Italie, Z. Mais on rappelle, c'est un joueur né dans l'année 2000. Donc, il a 19 ans. C'est vraiment très, très fort. Très, très intéressant.
C'est quel profil? Parce que Zubizarreta faisait vraiment
un
profil pour l'avoir.
C'est un neuf qui occupe les espaces, qui est capable de lire les centres, les premiers buts qu'il met, c'est extraordinaire.
Pivot, but, il est comment?
Il est encore pas si, il est pas encore si grand pour se permettre de faire un travail, physique.
C'est pas le genre de joueur qui avait de jouer en
pivot. C'est pas Balotelli à 18 ans. Balotelli à 18 ans, c'était quand même déjà plus costaud.
D'accord.
Lui, je pense qu'il aura pas ses profils, mais c'est un neuf. Je sais pas, il doit grandir, peut venir à Agüero, c'est quand même un très bon attaquant qui se déplace très bien, qui lit les situations.
La question elle est sur son avenir au milieu de ce trio offensif, quatuor offensif.
L'avenir,
quelle est sa place? Est-ce qu'il aura par le biais d'apparitions comme celle-ci l'occasion de jouer, ou est-ce que tu préconises pour lui justement de qu'il soit prêté?
La Juve va au pire va les prêter. La Juve veut pas s'en séparer d'un joueur qui est considéré l'avant-centre d'avenir de l'Italie. Donc
après ils voulaient mettre 15 millions hein, cet été dessus.
Je pense que c'est quand même compliqué. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il a montré encore ce soir, c'est que si Allegri a tout fait parce qu'il part pas en janvier. Exactement, pour ouais. les garder là-bas, c'est peut-être pour le faire jouer que ce match si la Juve sera éliminée, donc il y aura plus de matchs avec l'équipe B. Mais c'était un joueur sur lequel tu peux faire confiance. On a eu beaucoup de choses intéressantes sur ce match. Déjà, Allegri, au final, a été un peu furieux parce que sur les 4-0, il a dit, mais non, on prend pas de but, ils ont cassé un but à la 85e. Ça l'a rendu un peu vénère parce que c'est comme ça.
Vénère. Tu parles comme les jeunes maintenant, ça y est.
Ben,
les jeunes,
Simone. Bah oui.
Parle Verlan maintenant.
Bah, il parle Verlan, ouais. Simone.
Ça c'est l'assimilation. La française,
parle la Verlan, non?
Et j'apprends les français que j'écoute. Donc, peut-être, j'écoute.
Bah, tu m'écoutes trop, toi.
Je m'écoute trop. je dois écouter plus Nico. Tu dois me faire des cours privés, on peut dire.
Si tu veux, moi.
Voilà, coquine.
Sans Mandzukic, sans Chiellini, sans Bonucci, sans Cristiano. Bonucci a dû rentrer, malheureusement, après 23 minutes, parce qu'André Barzal, il s'est blessé. Elle a fait 7 matchs, c'était l'8e cette saison de Barzali, 37 ans. C'est vraiment une fine des carrières que ça pouvait se passer mieux. La Juve, c'était la meilleure Juve que j'ai vue depuis 2019. Peut-être ça aide le fait qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient de l'envie de se montrer, de chercher, de gratter une place pour ces matchs face à l'Atlético, parce que on se pose beaucoup de questions. Quel compo? Faut savoir qu'Alexandro est suspendu, Deschilles blessé. Donc, il y a deux options que Allegri fait comprendre ce soir après le match. Soit en défense à 3.
Donc, avec qui?
C'est plus probable pour moi Caceres que Rugani comme troisième, avec Bonucci Chiellini bien sûr. Soit les jouer à 4 avec Alexandro à gauche et éventuellement Spinazzola à droite. Donc avec Spinazzola à gauche et Cancel à droite, parce que Alexandro est suspendu. Alexandro était ce soir à gauche. Il y a plein de questions, même sur qui va jouer au milieu de terrain. Ce soir, Emre Can a joué plutôt bien, il a marqué un but sur penalty. J'ai trouvé un très bon Betancourt. Matuidi marque un but. J'ai dit très beau, même si c'est plutôt simple à mettre, mais la projection qu'il a pour aller récupérer en centre et les tempos qu'il a, il est bon. Donc, il y a Pjanic qui était suspendu ce soir, il va revenir. Il y a beaucoup de questions sur quelle va être l'attaque, les milieux et la défense utilisée par Allegri. C'est peut-être pour ça que ce soir, c'était vraiment un Juve qui avait envie de jouer, de créer des occasions. Et ceux qui étaient remplaçants ou ceux qui sont remplaçants et qui veulent être titulaires mardi ont fait vraiment un bon match.
Mais tu penses qu'il y aura des surprises du coup alors pour le match de Ligue des Champions ou pas?
Moi je pense que c'est possible d'avoir une défense à 3. C'est pas impossible. Je pense que c'est possible.
Caceres jouerait bien dans ce match-là. Hein. C'est un match pour.
Caceres peut jouer mais si tu joues à 3, si tu joues à 3, je peux hypothéser un Cancelo ou un Spinazzola peut-être. Faut voir les milieux de terrain. Milieu de terrain, Betancourt, Emre Can, Pjanic, Matuidi, peut-être qu'ils vont jouer que deux. Donc les surprises. Moi, je vois pas Dybala.
Est-ce qu'on peut avoir la surprise de voir le petit jeune qui claque la surprise ou pas?
Non. Peut-être il va être sur les bancs. C'est-à-dire, moi, si je suis Allegri, en Serie A, on sait que tout l'effectif peut être sur les bancs. En Ligue des Champions, il n'y en a que 7. La surprise peut être d'avoir Kane dans les 7 et que si à un certain moment les choses vont mal ou qu'il faut marquer encore un but ou deux, c'est Kane plutôt que Dybala. Pourquoi
devant,
pas?
Et devant sera Mandzukic, Ronaldo et
Mandzukic, Ronaldo et pour moi les troisièmes ce sera Bernardeschi.
Non. Bernardeschi. Ouais.
Okay. Il a fait un match mature ce soir, c'est-à-dire il était protagoniste, il cherchait d'être protagoniste, il cherchait d'être leader ce soir, donc moi j'ai trouvé un très bon Bernardeschi.
On rappelle un mardi soir un Juve Atlético, il y a eu 2-0 à l'aller pour l'Atlético dans ce 8e de finale de Ligue des Champions. On va parler d'une équipe qui est déjà sortie de la Ligue des Champions, c'est la Roma. Conséquence, Monchi quitte la Roma, le directeur sportif espagnol. Di Francesco est parti également, et alors ça a été officialisé dès aujourd'hui, c'est Claudio Ranieri qui vient de se faire virer de Fulham en Première Ligue, qui prend la place à la Roma, qui revient d'ailleurs à la Roma parce qu'il a déjà entraîné là-bas.
Il y a des ans. Bah, l'histoire est plutôt compliqué à raconter, mais je parte avec la chose un peu la plus belle. Quand l'agent de Claudio Ranieri a négocié avec la Roma et voulait mettre des clauses, Ranieri a dit « laisse tomber les clauses. Moi, je rentre à la Roma
parce que la Rome a besoin de moi. Je veux pas qu'ils mettent des clauses si on arrive quatrième.
Des bonus, tout ça. Ouais.
Non, non, c'est-à-dire, on négociait, disait, bon, on signe 3-4 mois, et après, s'il y a certains résultats, il y a une année en plus. La Rome peut te virer, mais tu restes avec une année en plus à te faire liquider, à te faire payer.
Est-ce qu'il est en mesure de pouvoir négocier quoi que ce soit après il a toujours cette aura en Italie.
Non,
malgré les échecs.
Mais c'est-à-dire, dans ces moments, il t'avait besoin d'un entraîneur. Voilà. Lui avait... C'est normal dans les négociations, personne signe pour 3 mois, tu signes 3 mois plus un année en option.
Donc il nous explique que c'est son amour pour la Roma.
Et lui il a dit laisse tomber les options, etc. Moi les 3 mois je les fais parce que la Roma a besoin de moi. Lui c'est né à Roma, c'est un romanista, c'est vraiment c'était son plus grand plaisir à entraîner la Roma au-delà des résultats magnifiques qu'il a eu avec Leicester. Et là tu as vu vraiment quelqu'un qui voulait être à disposition d'un club qui avait besoin de lui.
C'est seigneur de sa part, mais en même temps, même si ça avait été le contraire, il n'était pas en position de force pour négocier quoi que ce soit. Si, malgré tout.
Quand tu as besoin d'un entraîneur, t'as 3 mois, t'es à 3 mois des contrats, 3 mois pour finir la saison. Quand même, tu trouves une personne qui prend pour 3 mois.
Est-ce que la rumeur Paulo Sousa, ça tenait la route ou pas?
Paulo Sousa, à un certain moment, j'ai compris que la Roma ne voulait pas s'aligner sur ce qu'est en train d'offrir Bordeaux, qui c'est un très bon contrat, à niveau salarial et des durées.
Des durées, surtout.
Voilà. La Roma aurait peut-être offert, la fin de saison, plus un an, plus peut-être un année, derrière. Paulo Sousa, elle a mis les deux propositions sur la table. Bordeaux, ça faisait longtemps qu'il les cherchait. La Roma continue à dire, on va voir qu'est-ce qui se passe en Ligue des Champions, Et mercredi, quand la Roma a joué, Paulo Sousa était en train d'accepter déjà Bordeaux. Donc, c'est passé un peu, je dis pas que c'est la Roma qui ne voulait pas Paulo Sousa, c'est probablement Paulo Sousa qui a voulu plus Bordeaux plutôt qu'attendre la Roma. Après, autre chose, Di Francesco est viré. Monchi, démission pratiquement. C'est-à-dire, c'est lui qui avait lié son avenir à celui de Di Francesco. On se rappelle une conférence de presse, présentation des clubs verts cet été, 19 juillet, où lui, il disait, si je gagne pas, moi je prends l'avion et je m'en vais. Lui, il avait fait comprendre que son travail, c'était de faire grandir la Roma, mais il voulait aussi ramener le trophée parce que c'est que demandaient les supporters. Lui, il avait mis la condition, si vous virez Di Francesco, moi je pars. Et quand la Roma virait Di Francesco.
Ça, c'est un homme de parole, alors.
C'est fort.
Ça, c'est fort. Après, à Roma, il n'y avait plus personne qui voulait le voir. Surtout au niveau des supporters.
Ça, c'est fort aussi.
La relation était totalement cassée. Il a dépensé 264 millions.
Mais combien il a ramené?
Énormément. Beaucoup, c'est-à-dire, il a ramené.
Non, mais je te pose la question, c'est important aussi.
Il a vendu des joueurs qui avaient acheté un autre.
Oui, mais c'est pas grave. L'important, c'est que tu les vendes. Hein. Le réseau, c'est ça aussi.
Les réseaux, c'est ça. Je pense qu'à Lisbonne, tu pouvais les vendre à n'importe qui. Tu n'avais pas besoin de Monchi pour les vendre cet été. Oui, tu avais bien Strootman, vu ses prestations.
Non, mais c'est pas ça. Simone, c'est que si tu dis d'un mec, il a acheté pour 260, mais qu'il a vendu pour 340, oui, même si c'est pas lui qui les a ramenés.
Le problème, c'est que tu achètes.
Je te dis pas qu'il a vendu pour 340. Je te pose la question.
Non. Bah, il a vendu à Lisbonne. Il était obligé. Je dis pas qu'il a sous-vendu cela, mais il était obligé de vendre cela dès qu'il est arrivé. La chose forte pour moi, c'est que entre les joueurs qu'il a achetés, il y en a vraiment très peu qui ont un énorme potentiel derrière. Sauf Zaniolo, qui c'est presque un hasard parce que lui, c'était pas Zaniolo qui voulait. Il avait demandé 2 autres joueurs, l'Inter a dit non, et donc il est tombé sur Zaniolo. Et Under, qui c'est probablement sa meilleure réussite. Sauf qu'il a maintenant, il a blessé. Et c'est pas un hasard qu'on parle de Under qui pourrait partir à Arsenal cet été. Arsenal qui devrait être la destination de Monchi. Monchi, personne lui pardonne à Roma d'avoir payé 25 millions ou 27 millions d'euros Pastore avec un contrat de 5 ans pour 4 millions et demi net par an, donc 5 millions, 9 millions bruts.
Et tu penses qu'il va aller où là?
70 millions Pastore à la Roma.
Tu penses qu'il va aller où, Monchi, là? On parle de lui à Arsenal, on parle de lui au Paris Saint-Germain aussi?
Je crois Arsenal parce que ça fait longtemps qu'on parle d'Arsenal.
Et Unai Emery, lui, se connaît depuis Séville, donc.
Parce que je pense qu'il va voir aussi à sa façon de travailler. Pour moi, c'est plus pour un club aujourd'hui comme Arsenal qui court un club comme Paris. À Roma, je t'ai dit, il y a vraiment très peu des joueurs qui on peut considérer une réussite de Monchi.
Bien sûr.
Olsen, il a payé 12 millions. C'est un gardien qui vaut pas la moitié des Alisson. Je pense encore à Karsdorp. Je pense encore, il a fait un bon coup avec Kolarov. Zonzi, c'est beaucoup critiqué à Roma. Donc, il y a beaucoup de questions sur...
Monchi à Paris, c'est totalement antinomique. Hein.
Ouais, après,
c'est un joueur,
c'est ce qui se dit, c'est pour ça qu'on lui pose la question.
C'est un joueur qui va chercher des joueurs.
Après, si tu dois, si tu dois vendre certains stars à Paris et rebâtir totalement la compo, l'effectif.
Je suis pas sûr.
Peut-être que Monchi, c'est l'homme qu'il faut.
Alors, juste un mot, il te reste trois minutes, mon Simonet, sur Paul Sosa, qui a été nommé, c'est officiel, ça y est, nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. Alors, il était à la Fiorentina pendant deux saisons. Il est en Chine, là, dernièrement, au Tianjin, mais.
Je pense qu'il a beaucoup plus réussi à Florence qu'en Chine.
Ouais. Moi, 19e en CS.
Moi, j'aimais beaucoup le style de jeu de Paulo Sosa. J'ai trouvé.
Tu parles du joueur ou de l'entraîneur?
Non, le style de jeu de ses équipes, de la Fiorentina quand il l'a entraîné.
Ah oui.
Mais déjà,
il n'avait pas des super joueurs en plus à disposition. Moi, hein. Il y avait un peu Chiesa qui était là, mais c'était pas.
Moi, j'appréciais énormément. Il a entraîné à Bâle avant. Il avait fait super.
Il a été champion de
la Ligue aussi. Je me trompe pas.
À Florence, avec une équipe de bras cassés quand même. Il a eu.
Il jouait avec une défense à trois qui savait faire les jeux, même s'il y avait Astori qui était un très bon défenseur dans la défense à trois. Il avait du jeu, du ballon, mais même Gonzalo Rodriguez, il faisait des bonnes choses. Il avait une équipe carrée. Il avait lancé des jeunes comme Bernardeschi, comme Chiesa. C'était une équipe que même avec deux milieux comme Badej et Vecino, qui pour moi sont un peu plus de rupture de construction, mais quand même ça fonctionnait bien. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un jeu dynamique, offensif, pressingo.
C'est le pressing en italien.
C'est
quoi.
Pas portugais.
Le pressingo.
Du pressing haut.
Ouais, non, j'ai compris. A compris.
On dit pressingo.
C'est ça.
Voilà. C'est toi qui m'as dit ça avant.
Ouais, c'est
donc,
ça.
En tout cas,
juste pour, parce que, moi, on m'a posé beaucoup de questions sur lui, aussi. Moi, je l'avais connu, c'était son tout premier poste comme entraîneur. Il était sélectionneur des moins de 16 au Portugal. Il y a un truc que je peux vous dire sur Paulo Sousa, pour ceux qui l'ont vu jouer déjà, dans les années 90 notamment. C'était un joueur d'une immense classe. Et surtout, il a une classe phénoménale, ce mec. C'est-à-dire, souvent, tu disais tout à l'heure, quand tu parlais de Julien Stéphan, Ludovic, l'entraîneur, c'est celui qu'on voit le plus souvent au quotidien, ouais. Etc. Il a un charisme, une prestance, une élégance, ce mec. Il a une belle voix, il s'exprime bien. Enfin, vraiment,
il est magnifique.
Ah non, mais je te jure, la première fois que j'ai vu Paul Sosa, c'est,
t'es tombé amoureux.
Ah, mais vraiment, il a une vraie, mais même sa voix, sa façon de parler,
faut pas les dire.
Ou pas. C'est différent, en fait. C'est un autre style, que Rui Costa.
Il faut pas demander ça à Di Francesco, parce que quand, au début de la saison, Rui Costa fait un entretien, il disait, Rui Costa.
Paulo
Sosa fait un entretien.
Je te tire vers le bas.
Où il disait, oui, la Roma, ce serait bien d'aller entraîner la Roma. Si je vais en Italie, ce sera un club que j'apprécie. Donc, Di Francesco n'avait pas aimé ça. Et surtout, les médias portugais avaient relayé l'effet que mercredi soir, il devait être en tribune à Porto.
C'est la Sky qui a balancé ça à la base. Hein. Je te le dis, au Portugal, ils ont cité la Sky. Hein. Donc, commence pas à dire que c'est nous, c'est vous qui avez foutu la merde.
Moi, alors, je savais qu'on citait les médias portugais.
Oui, vous avez très bien compris, monsieur Robert.
Non.
Les Français ont le droit de savoir. Arrêtez.
On
accueille Anthony, supporter de Bordeaux, s'il vous plaît.
Les amis de Nico Villas qui disaient ça.
Vous disputez pas entre deux pays qui tombent la dette de l'Union Européenne, vous disputez pas, vous êtes au même niveau.
Lui, il a plus de dette que moi.
Oui, je sais, mais bon.
Salut Anthony.
C'est quand même pas brillant.
Ouais, bonsoir tout le monde, ça va?
Et toi, alors, qu'est-ce que tu penses du choix pour Paulo Sousa, là, comme entraîneur?
Paulo Sousa.
Écoute, t'as dit deux mots qui correspondent bien à Bordeaux, c'est élégant, c'est classe. Donc je pense qu'il va être comme un poisson dans l'eau.
Je sais pas, tu le vois au Cap Ferret ou au Pila avec le petit pull sur les épaules?
Ah bah oui.
Et
moi aussi, hein. Comme Simone.
Non, mais après pour être plus sérieux, je pense que c'est un bon choix. Après faut pas se voiler la face, on pouvait pas viser non plus plus haut. Je pense que pour nous, dans la situation où on est actuellement et puis ce qu'on vit depuis des années, Sousa c'est bien. Après, le fait que ce soit un étranger, ça me va aussi. Donc voilà, à voir maintenant avec les recrues et puis l'effectif qu'il va avoir.
Oui, forcément, ça va dépendre aussi des joueurs qui vont arriver.
C'est ça, parce que après tu peux mettre qui tu veux, si tu prends pas de joueurs ou si t'as pas un recrutement. En adéquation avec ça, ça peut pas fonctionner, quoi.
Ouais. Bah écoute, on aura la réponse certainement dans les prochains temps. En tout cas, c'est vrai qu'il a un parcours un peu atypique et intéressant. Il a été champion en Suisse, il a été champion en Israël, il a gagné des titres en Hongrie aussi, il a entraîné en Chine, il a entraîné en D2 anglaise, enfin voilà, au pays de Galles.
Après, c'est vraiment quelqu'un qui à mon avis sait faire du football. C'est qu'est-ce qu'il veut. Il demande pas des grands noms. C'est pas quelqu'un qui va te dire, moi c'est signé à Bordeaux, mais tu me ramènes l'attaquant. Ouais. Et je pense qu'il va trouver des solutions intéressantes.
On remercie Anthony, supporter de Bordeaux, qui nous a appelé au 32-16. Et puis on vous rappelle, huitième de finale, retour d'Europa League jeudi prochain. Ce sera l'Emirates, match entre Arsenal et le Stade Rennais. Hier, les Rennais se sont imposés 3-1. Si vous voulez gagner vos places pour aller assister à ce match à Londres, vous envoyez foot par SMS au 7-32-16. Foot par SMS au 7-32-16. Bonne chance, à tout de suite avec Ludo et Jonathan. Merci Simonet d'avoir été avec nous.
C'était un plaisir.
Salut. Ouais, ouais, bien sûr.
Déjà fini.
Oui, pour toi, oui, mais pas pour nous.
Tu peux revenir.
On va parler de Balotelli dans quelques minutes.
Tu peux revenir plus tard.
Oui.
Ok.
À tout à l'heure.
Sache qu'on se reverra, Simonet.
RMC jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Nicolas Villas.
De Ludovic Obraniak et de Jonathan Macardi. On a été avec Pierre-Yves Leroux, on est revenu sur le huitième de finale de Ligue Europa entre Arsenal et le Stade Rennais. On vous rappelle, pour gagner des places pour le match retour, vous envoyez foot au 7-32-16. Ce sera jeudi prochain à l'Emirates à Londres. On a parlé de Lyon qui a son match en début de semaine prochaine face au Barça, huitième de finale retour de Ligue des Champions. Le PSG qui est déjà éliminé. On a fait l'Italie avec Simone Rovera, Ranieri de retour à la Roma. Et bien place maintenant à l'une des affiches de Ligue 1. Bah ouais, oui messieurs. Dimanche 21h, Marseille-Nice.
Le Balotellico.
Retrouvaille entre Balotelli et les Aiglons. L'Italien qui a rejoint l'OM cet hiver. Alors, il n'avait pas marqué en 10 matchs avec Nice cette saison. Et il en est à 4 buts en 6 matchs avec l'OM. Il y avait Malang Sarr aujourd'hui, le Niçois, en conférence de presse. Et il a quelques reproches à faire à son ancien coéquipier. Écoutez-le, il n'a pas Malang dans sa poche.
Quand on est joueur, on lui en veut, c'est sûr, parce qu'on aurait aimé que tous les joueurs de l'équipe soient concernés. Quand il y a un élément comme ça qui se met tout seul à part et qui décide de pas s'intégrer et d'être dans le projet, dans la vision du jeu de l'équipe de tout le club, c'est sûr que c'est gênant. Après, on doit faire abstraction de tout ça. On a un groupe, on doit pas s'arrêter que sur un seul joueur.
Voilà, il a expliqué, Malang Sarr également, qu'il s'était un peu exclu du groupe, Mario Balotelli. On lui a demandé, est-ce que vous le voyez comme l'un de vos coéquipiers, toujours comme un ami? Il a dit non, je le vois comme un ancien coéquipier. Il y a de la tension quand même un peu de la part de certains anciens niçois, Ludo.
Bah, je veux mon neveu, tu m'étonnes. Attends, moi, en tant qu'ancien joueur, si bien sûr, je comprends totalement la réaction de Malang Sarr. Il a pourri, ne serait-ce qu'individuellement, il a pourri le collectif niçois pendant X temps, et quand tu vois d'autant plus ce qu'il fait aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille, tu te poses des questions sur l'état d'esprit du garçon. Et quand, si ça ne pénalise que lui à la limite, mais si ça pénalise le groupe, et c'est ce que Malang Sarr est en train de nous expliquer, c'est-à-dire que son attitude a eu des répercussions sur l'aspect sportif des performances de l'OGC Nice. Il a pas voulu s'inscrire dans le projet, c'est ce qu'il nous raconte. Et c'est le premier à s'exprimer là-dessus, où tout le monde nous a dit « mais non, et Mario, il est super, c'est génial ». C'est pas correct de sa part. Pour le Nice, ne l'oublions pas, l'a relancé à une période où il était en grande difficulté. Il a renvoyé l'ascenseur pendant 2 ans. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Je consens à voir cette analyse, mais force est de constater que quand il n'a pas envie, il pénalise tout un groupe et Dieu sait ce que pourrait être le GC Nice s'il avait joué le jeu ne serait-ce que sur la première partie de saison.
Justement, un supporter de Nice, on vous attend au 32-16 sur le hashtag RMC Live, sur l'application Direct Studio aussi. Que retenez-vous de Mario Balotelli, de son passage justement du côté de Nice? On vous attend pour y répondre.
Écoute, moi, je pense que les retrouvailles, elles vont être électriques, parce que outre le fait que, comme Ludo l'a très bien dit, il a pas respecté les Niçois, il y a aussi, tu sais, les petites histoires à côté, tu sais, ce reportage sur la méthode Patrick Vieira, où tu l'entends dire que il est pas content du niveau technique de ses coéquipiers, qu'il veut retourner dans des grands clubs parce qu'il en a marre, grosso merdo, de jouer avec des chèvres. Moi, je pense que les retrouvailles, ça va pas être au beau fixe, je pense qu'il va avoir de la tension dans l'air, et j'ai hâte de voir le premier duel entre Balotelli et son défenseur. Après, pour être tout à fait honnête, très franchement, alors, quand Balotelli ça marchait bien à Nice, on sentait que voilà, on voyait vraiment comme Nice un club qui va permettre à Balotelli de rebondir, etc. Mais là, j'ai l'impression, malgré les réticences qu'on a tous pu avoir lors de sa signature en janvier, qu'il y a un truc qui est quand même en train de se créer à Marseille. Là, il vient de dire qu'il voulait rester, qu'il était bien.
Alors, interview à Paris demain d'ailleurs dans la Provence. Voilà. Voilà, il dit la vérité, c'est que mon contrat se termine à la fin de l'année. Après, on va discuter. J'ai dit à mon agent que j'étais bien ici. J'ai envie de rester, déclare Balotelli.
Ça ne remet rien, enfin en rien, en cause son avenir à l'Olympique de Marseille. vit actuellement c'est, à l'Olympique de Marseille.
Non, mais vu qu'on parle de lui et de son caractère.
Ouais, enfin, au début, à Nice, on disait pareil aussi, hein.
Parce qu'à Nice, on a toujours su qu'à Nice, c'était pas une finalité. Que Nice, c'était un tremplin pour se relancer, pour se remettre dans le sens de la marche. Marseille, quand tu vois, c'est un club qui est d'une dimension supérieure à l'OGC Nice, on va tous être d'accord là-dessus. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui peut se créer. Après, attention, et c'est là tout le sens de mon propos, je pense qu'il faut faire attention, pas s'enflammer. Il y a eu que 6 matchs, on va voir comment la saison se termine, pas prendre de décision hâtive, pas tomber amoureux trop rapidement.
Parce que tu crois que lui, il voit Marseille comme une finalité. Un mec qui a joué à City, qui a joué à Milan, qui a joué à l'Inter, qui a joué, enfin, et tu crois qu'il...
Non, pas comme une finalité, mais je pense que Marseille, ça peut être un club dans lequel il peut rester sans râler sur le niveau de ses coéquipiers, sans se prendre trop pour une diva. Je pense que c'est un club.
Attends, il l'a fait dans les clubs que je viens de te citer, Jonathan. Pourquoi il le ferait pas là-bas?
Parce que je pense
c'est son tempérament.
Je pense qu'il a pris du plomb dans l'aile, parce que même si sur la fin de l'histoire avec le GC Nice ça s'est mal passé, je pense qu'il y a eu des mésententes contractuelles entre les deux parties, et surtout il y a eu le départ de Lucien Favre, n'oublions pas, qui arrivait parfaitement à le canaliser. Ça faut pas l'oublier. Je pense quand même qu'il a un petit peu changé, qu'il a un petit peu pris en maturité et qu'il est un peu plus raisonnable par rapport à avant. Moi, je pense que l'épisode.
Tu viens de nous citer le fameux document qui avait été fait sur Canal là, et qui était très bon. Mais c'était il y a quelques mois. Hein, c'était en début de saison.
En quoi c'est antinomique?
Je sais pas. Tu me dis il a pris du plomb dans la cervelle. Il y a 6 mois encore, il avait ses déclarations vis-à-vis d'Ira en disant ceci ou cela.
Est-ce qu'on peut être tout à fait honnête et reconnaître que le projet niçois sous l'ère Jean-Pierre Rivère et Lucien Favre et Julien Fournier, c'est totalement différent.
Et ça te donne le droit de dire ça à tes coéquipiers?
Mais non. Mais après, Nico, c'est un instant volé. C'est limite un peu du voyeurisme. C'est un instant volé entre un coach et dans une discussion privée entre un coach et un joueur.
Les caméras sont là. Hein.
Je sais pas s'il se rend compte.
Jonathan, on n'a pas eu besoin de ce documentaire pour voir qu'il y avait un malentendu quand même entre lui, ses partenaires.
Mais je comprends ce que tu veux dire.
À partir du moment où tu vois où Lucien Favre part, où il voit que le mercato de l'OGC Nice est moins ambitieux que les années précédentes, il se sent un petit peu floué. Après, attention, je ne l'excuse pas, son comportement en début de saison est totalement inadmissible à indigent.
Tiens, on accueille Tony, supporter de Nice.
Il a regardé la même partie.
L'indigence. Salut Tony.
Salut les gars.
Salut Tony.
Salut Tony.
Alors quelle image tu retiens, quel souvenir tu gardes toi de Mario Balotelli de son passage à Nice?
Ah ok, bon, si je dois répondre à cette question, j'étais un peu en train de bouillir sur ce que disait Jonathan.
Ah bah vas-y, énerve-toi alors Tony, vas-y énerve-toi.
Non, je vais pas m'énerver, mais c'est juste quand on dit...
Toute contradiction est la bienvenue.
J'ai pas de problème à admettre que l'OM c'est une dimension un peu supérieure à l'OGC Nice. C'est dur à dire, mais bon, je l'admets.
Un peu, non mais sois honnête, c'est même pas un peu.
Vas-y Tony.
Je l'admets, mais par contre, il faut aussi avouer que l'OM c'est pas les clubs que Balotelli visait quand il disait que l'OGC Nice c'était un tremplin pour lui. Lui, il parlait des grands clubs, notamment italiens, et je suis sûr qu'il est très content d'être arrivé à l'OM maintenant. Mais c'est pas une finalité, et ça l'empêchera pas de faire la diva, je pense. Vraiment.
Tu penses pas qu'il se rend compte qu'il a peut-être pas le niveau pour ces grands clubs italiens?
Je pense qu'il se rendra jamais compte qu'il a pas le niveau. Quand honnêtement, vous parliez du documentaire tout à l'heure, et dans le documentaire, au-delà des instants de tension, on sent que il considère que tout le monde est trop petit pour lui, quoi. Que le mec, il faisait tous les matchs pour nous. Il avait l'impression que quand il était sur le terrain, il était bon. Il se rend pas compte.
Enfin, Tony, pour un club qui ne semble pas être à la hauteur de sa stature, Nice n'est qu'à 4 points au vu de sa saison, n'est qu'à 4 points de l'OM quand même. Hein.
Mais on est d'accord.
C'est pas en termes de nom et d'apparat, Ludo, ça a rien à voir, tu vois.
Mais au-delà de ça, au-delà du nombre de points où c'est différent, mais c'est surtout sur sa façon d'analyser ses propres performances. Quand il explique face caméra que ça le rend fou d'être remplacé à la 60e minute ou à la 70e, et que moi j'ai vu les matchs et que je me dis mais comment il peut être fou de sortir alors qu'il a rien fait, mais il se rend même pas compte de ça, il se rend pas compte de ses propres performances. Donc à partir de là, je pense que Balotelli qui ne fait pas la diva, ça n'arrivera pas jusqu'à la toute fin de sa carrière, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est ce que disait Jonathan. Mais
et au final, t'en gardes quel souvenir toi du coup alors, Tony?
Mais moi, c'est très compliqué en fait la relation que j'ai moi et que les supporters niçois ont avec Balotelli, parce que il nous a fait vraiment du bien et c'était génial pour l'exposition du club, pour ce qu'il a réussi à apporter, pour les gestes qu'on a pu voir. Franchement, c'était top, mais en fait, il est vraiment parti 5 ans
trop tard. Mais Anthony, je pense que c'est un peu trop frais, que vous êtes encore un peu trop à vivre sur ce qui s'est passé.
Mais en plus, il part avec le voisin, tu
vois. C'est comme quand ta nana, tu te sépares de ta nana.
Non, mais elle se barre avec le voisin, tu vois.
Ouais, qu'elle se barre. Non, mais le voisin.
Ah bah si, tu la vois tous les jours.
Il est pas parti.
Non, mais c'est pas comme si elle se barrait au bout du monde. Là, tu vois, tous les jours, tu le vois là.
Je pense qu'au final, vous retiendrez quand même les deux belles saisons qu'il a fait pour vous. Et plus que le négatif. Mais dans 4-5 ans, tu vois. Là, c'est trop tôt.
Sur ça, franchement, c'est bien sûr qu'il y a encore un truc être à chaud. Mais moi, en fait, j'avais rien à reprocher à Bottei et j'aurais rien eu à lui reprocher vraiment s'il était parti cet été à Marseille. Ça, voilà, ça, clairement, ça m'aurait fait chier qu'il aille à l'OM. Mais voilà, j'aurais accepté sans problème. Le fait qu'il reste 5 mois, bon, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'est un peu obscur. Mais en tout cas, le fait qu'il reste ces 5 mois pour ensuite repartir et que pendant ces 5 mois, il respecte ni le club, ni l'entraîneur, ni ses coéquipiers.
Ouais, ça, je suis d'accord.
Ni les supporters.
T'as raison.
Ça pose un gros problème quand même, quoi. C'est pour nous, c'est assez dur à avaler et ça restera quand même le souvenir de Balotelli, le dernier souvenir, quoi, ce qu'on garde, la dernière chose qu'on a en bouche, quoi.
Ouais. Merci beaucoup, Tony, d'avoir été avec nous, en tout cas.
Bah, merci à vous, les gars.
Bonne soirée, à bientôt, Tony. Ciao.
Salut.
Ciao. Tiens, on accueille Laura, supportrice de Nice, qui nous a appelé au 32-16 également. Salut, Laura.
Bonsoir.
Salut, Laura.
Bonsoir. Comment va, Laura?
Bonsoir. Bien. Pour revenir sur le sujet, je suis assez d'accord avec l'auditeur que vous venez d'avoir, Tony. C'est-à-dire que on peut pas ne garder que ces derniers 5 mois. Il a énormément apporté. Il faut pas oublier que l'OGC Nice, on vient de vivre les 5-6 dernières saisons franchement fantastiques.
Ouais.
Avant ça, toutes les saisons, on serrait les dents les 2-3 dernières journées de peur de descendre, quoi. On vient de faire 3 qualifs en Europa League sur les 6 dernières années. On a eu l'épisode Ben Arfa, on a eu tout ça. Et moi, ce que je reproche surtout ces derniers temps, c'est pas à Balotelli que je fais des reproches, c'est à la direction du club et la nouvelle logique que l'on ne comprend pas d'ailleurs. J'ai manqué ce soir sur Team Giga l'interview de notre nouveau président où je travaillais. Mais,
Il y a le podcast, Laurent, je
l'écouterai demain après celui-ci.
Mais c'est pas normal que tu l'aies pas déjà fait, Laurent.
Ben, on est déçus. Je pouvais pas écouter le podcast. Je viens tout juste de rentrer du boulot.
Des petits écouteurs Bluetooth, là, invisibles, là. Tu t'écoutes en douce.
Mais j'avais su du Moscato Show à attraper avant.
C'est bon, ça.
C'est pas rare. Non, mais voilà. Aujourd'hui, force est de constater que la nouvelle direction du club fait des choix que l'on comprend pas. Et, si les recrues qui avaient été annoncées par notre ancien président Rivère, au mois d'été avait été validé, je pense que le départ de Balotelli aurait été acté. Et si Balotelli n'est pas parti, en temps et en heure, il le voulait et comme le club était d'accord pour, on peut dire que Marseille n'a pas mis le chèque.
Est-ce que vous n'êtes pas d'accord pour dire que Balotelli a été, même si encore une fois, son comportement après sur la saison avec Nice est inadmissible, mais est-ce qu'on peut pas dire qu'il a été un petit peu victime de la guéguerre entre Julien Fournier et Jean-Pierre Rivère avec la direction marseillaise, parce que Julien Fournier et l'OM, il y a des antécédents, et au comportement de son agent.
Je sais pas, mais à un moment donné, ils se sont retrouvés, désolé, tu peux pas partir parce qu'on nous laisse prendre personne d'autre, quoi.
On l'a quand même laissé aller visiter les installations, aller à la commanderie, etc., tu vois.
Après, au mois de juillet. On l'a pas vraiment le pourquoi, mais bon, on est à peu près sûr que l'histoire vient de Fournier et Rivière qui sont pris la tête avec l'investisseur chinois, qui leur a retoqué toutes les occasions, tous les deals qu'ils pouvaient faire. Et voilà.
Surtout Fournier et Rivière qui sont pris la tête avec Jacques Henriot.
C'est vraiment à Balotelli, quoi. Alors après, oui, c'est un Italien avec tout ce que ça comporte comme réaction épidermique, lui il est en colère, et ben je boude dans mon coin et voilà. Il ne réfléchit pas plus loin que son nez dans ces moments-là. Et tant sur le plan sportif, c'est pas cool, les coéquipiers, machin, tout ça, mais il faut pas oublier qu'un club, il y a des salariés. Il y a des gens qui vivent des résultats du club. Et qu'un club comme le GC Nice, qui a énormément grossi ces dernières années, il a aussi énormément augmenté son budget et ses charges de salariés. Je pense que, voilà, après un genre de... Voilà, j'ose imaginer qu'un joueur de foot professionnel, il réfléchit un peu à tout ça quand même. Mais une ou deux places ou trois places d'écart dans un championnat, comme la Ligue 1, ça fait quelques millions d'écart à la fin de l'année.
Et
ça, dans un budget comme celui de l'OGC Nice, on n'a pas 270 millions de budget.
Mais tu penses vraiment que tous les joueurs pensent aux salariés du club? Ah, moi je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, mais c'est un peu utile.
Juste une chose, Laura, parce que...
Sans être naïve, mais j'ose imaginer que quand t'es professionnel dans ton métier, quel que soit ton métier, tu réfléchis un peu plus loin que le bout de ton nez.
Je pense que malheureusement, le monde du foot et à l'image de notre société, c'est un peu tout pour ma gueule maintenant.
Donc voilà.
Non, mais faut pas généraliser, il y a des mecs qui le pensent.
Oui, mais c'est pas la majorité.
J'étais intervenu l'année dernière, j'avais un peu tenu la même chose. Sauf qu'il va très bien avec le club de Marseille, hein. Quand on voit tous les joueurs qu'ils ont recrutés qui ont fait des cacas nerveux ailleurs, Thauvin à l'époque avec Lille et ainsi de suite, ou Payet qui a fait ses cacas nerveux aussi pareil.
À Saint-Etienne. Et ben, vous rappelez qu'il avait pris le train pour signer à Paris tout seul, Payet?
Mais c'est,
Quand il était à Saint-Etienne.
Alors, juste une chose, Laura, parce que tu faisais allusion, il y a quelques instants. Je t'invite aussi à aller lire d'ailleurs l'interview du proprio de Nice sur le site officiel de l'OGC Nice. Alors, c'est une longue interview d'ailleurs où il explique un petit peu le projet. Moi, je vous avoue qu'il y a une phrase que j'ai trouvée. Alors, c'est finalement très dans l'air du temps où il dit, on lui pose la question. Bon, vous êtes là pour combien de temps? C'est pour du long terme. Il dit oui. Nous, on veut s'inscrire sur le long terme pour 5 ans, 10, peut-être plus. Donc, en fait, aujourd'hui, la logique, pour un investisseur, c'est peu de temps quand même.
Ça veut rien dire. À l'époque, le président Rivière, quand il a signé à Nice, quand on est allé le chercher, parce qu'on est quand même un peu allé le chercher, il a dit, OK, mais moi, je passerai pas ma vie dans ce club. Il avait dit dès le départ. Et quand je vois tout ce qu'il a apporté au club, le centre de formation, la nouvelle politique de recrutement, Nice, on s'est retrouvé avec des entraîneurs, on a eu Claude Puel. Alors, pour certains, c'était une pompe, machin, mais enfin, moi,
c'était la saison avec Claude Puel, là, où vous avez Zvitanis, Sivelli et compagnie, était extraordinaire.
On a été récupéré, Lucien Favre, le mec, c'est devenu le héros. Il est, bon là, il vit des moments difficiles avec Dortmund, mais c'est juste un entraîneur monstrueux. Tout le monde disait, on comprend pas comment le GC Nice a réussi à le prendre.
C'est vrai.
Nous non plus, on n'a pas compris.
Tu te rappelles toi qu'il avait refusé Lyon avant, d'ailleurs.
Oui, et puis il a aussi refusé.
Le Bayern.
Il a été courtisé par le Bayern, mais on a réussi à le garder. Alors moi, je vous m'expliquais comment un mec qui est à Nice, il arrive à refuser le Bayern. Je sais toujours pas comment, pourquoi, mais merci. Donc, enfin, faut pas oublier d'où il vient.
Ouais.
Aujourd'hui, on râle parce qu'on est septième. Oui, ça me fait râler. Mais j'oublie pas qu'il y a 7 ans, avant la dernière journée, on était 16e et on savait pas comment ça allait finir, quoi. Donc, enfin, faut pas tout oublier, pas tout jeter. Et, jeter l'eau du bébé avec le boudin, comme dirait, un
philosophe.
Entraîneur de fédéral Charles, en rugby.
Ah ouais, c'est des philosophes. Non, c'est la NASA, c'est comme ça qu'il s'appelle, la NASA.
Voilà, la NASA du rugby. Mais, enfin, on a le temps qui veut rester au club, ça veut rien dire. T'as des directeurs qui vont rester 30 ans et rien faire. Et puis on a eu, voilà, président Rivière. En plus, moi, je travaille en restauration. Je travaille en restauration sur Nice. J'ai eu la chance de le servir dans le cadre de mon travail.
Tu travailles où, Laura? Dans quel resto?
Là, j'ai changé, mais à l'époque, c'était dans une grande brasserie niçoise assez connue au bout de la promenade des Anglais.
Ok. Bref,
restaurant italien.
Ouais.
J'ai eu la chance de le servir, il était là avec sa famille, donc j'ai hors de question que je le dérange, machin, etc. Mais à la fin, en plus, c'était quelques jours après un interview de lui au canal Football Club. Bon, bah, à la fin du repas et tout, je lui dis merci pour tout ce que vous avez fait, parce que, enfin, aujourd'hui, on a des bases, on a une structure qu'on n'avait pas, quoi. Et on a une réputation aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, une équipe qui rencontre Nice, ils disent pas, ouais, c'est bon, c'est 3 points faciles, quoi.
Ouais.
Il y a 7 ans en arrière, les gens ils rencontrent.
T'as raison, Laura.
On prend les 3 points.
Laura, merci d'avoir été avec nous.
Et bravo aussi pour ton intervention.
Laura, merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
À bientôt, Laura.
Salut, Laura. Une part de Soca pour moi, tu manges. Et de petits de ravioler à la daube de sanglier, parce qu'on mange bien à Nice, pétard.
On remercie Laura qui nous a appelé au 32-16. On va accueillir Maxime, alors qui est supporter du Paris Saint-Germain, mais qui voulait intervenir lui aussi sur ce débat. Salut, Maxime.
Bonsoir.
Salut Maxime.
Alors Maxime, tu voulais intervenir sur cette question sur Mario Balotelli. Vas-y Maxime.
Oui, exactement, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure. Et je suis pas trop d'accord avec vous. Premièrement, concernant la qualité de Gianluigi Balotelli, parce que quand vous parlez de... Quelqu'un dit à un moment donné, il n'a pas le niveau pour un grand club. Moi, je pense qu'il a totalement le niveau pour un grand club. Maintenant, des fois, c'est une question d'opportunité, une question de timing.
Mais on l'a vu dans des grands clubs déjà, Balotelli.
Non, mais vous l'avez vu jeune. On l'a vu à 24 ans. On l'avait à 25 ans.
On l'a vu au Milan, il était pas, au Milan, c'était ça.
Au Milan, il a été pas mal quand même.
Il était pas mal avant de sombrer.
Bah, il est tombé, oui, parce qu'il est tombé aussi dans un Milan qui a sombré lui-même aussi.
À Liverpool.
Bah, Liverpool, il avait quel âge?
Bah, c'était il y a pas si longtemps que ça, Liverpool.
Liverpool, il sort de son premier échec de Manchester City. Et après,
Non, c'est pas comme ça chronologiquement.
Comment?
Je crois pas que ça soit chronologiquement le déroulé de sa carrière.
Bah, en tout cas, pour moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il a largement le niveau. Et de toute façon, c'est même pas nous qui le disons. Quand on écoute des coachs comme Favre, comme Dante qui joue avec lui, comme Ibrahimovic, même si on va dire qu'Ibrahimovic, comme ils ont le même agent, ils sont peut-être pas objectifs, mais il a vraiment le niveau, en tout cas, pour un grand club. Et après, moi, c'est surtout pour intervenir par rapport à Sarr, là, Malonga Sarr, qui s'est permis de parler là sur Balotelli pour limite être énervé et frustré. J'ai envie de lui dire, t'as vu mon coco, tu veux pas en fait mettre les mauvais résultats sur une seule personne en fait. Le football c'est collectif, donc c'est pas parce que c'est vrai la star de ton équipe malheureusement et en pourparlers pour partir, ça ne se passe pas, ben il est dans son coin qui boude. C'est pas lui qui empêche aux 16 autres, aux 18 autres de jouer. Hein. On peut pas aujourd'hui être frustré. Bien sûr, ça frustre un peu quand t'as un grand joueur qui ne, avec son niveau,
mais
qui
Maxime, n'aide pas Maxime, 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 je vais te couper, mais quand tu dis, quand tu dis le niveau pour un grand club, le niveau pour un grand club, c'est pas juste le niveau technique, il y a le niveau de talent, c'est le niveau de professionnalisme. Et ça, pour l'instant, il a montré qu'il ne l'avait pas. Et deuxièmement, moi, je suis d'accord, quand tu, je suis pas d'accord avec toi quand tu parles de la réaction de Malang-Sarr, c'est parce que quand tu dis il aurait dû se taire et lui faire des bonnes prestations. Mais faut pas oublier l'impact et l'importance et l'influence qu'avait Balotelli au sein de ce vestiaire niçois lors des deux présentes saisons.
Mais regarde, je vais te donner un exemple tout bête, hein. Dans tous les grands clubs, il y a des Balotelli partout. C'est-à-dire qu'ils sont en instance de départ, ils partent, ils ne partent pas.
Oui, mais là, c'était vraiment le joueur le plus important de ton équipe.
Comment ?
C'était le joueur le plus important de ton équipe qui avait réussi à un peu fédérer autour de sa personne lors des deux premières saisons.
Oui, mais à un moment donné, tout le monde connaît son caractère. Au même moment qu'il fait des bêtes de performance, tout le monde connaît son caractère.
C'est un peu... Juste, attends, Ludo, toi, tout à l'heure, tu disais au début de ce débat, Ludo, toi, que tu comprenais ce que disait Malang-Sarr, tu répondrais quoi, Maxime ?
Je lui répondrais que est-ce que Balotelli a éventuellement le potentiel pour jouer dans un grand club ? Oui, il l'a. Est-ce qu'il est aujourd'hui, il peut potentiellement prétendre à jouer dans un grand club ? J'ai envie de te dire qu'il l'a jamais montré.
Mais par rapport à Malang-Sarr, parce que là, Maxime dit en gros les.
Moi, je vais dire un truc.
Par rapport à ta première réponse, je suis d'accord avec toi.
Quand tu vois les grands attaquants aujourd'hui des grands clubs, c'est une régularité, c'est une exigence qu'il n'a pas. Est-ce qu'il a le potentiel ? Je te rejoins sur le fait qu'il a le potentiel. Il a la carrure, il a la prestance, il a la technique, il a tout ce qu'il faut. Or, il a jamais mis.
Mais tu réponds pas là.
Oui, mais laisse-moi finir. Il a jamais mis ses qualités au service d'un collectif ou au service de lui-même, tout simplement. Il aurait pu, oui, il aurait pu, mais il n'a jamais voulu passer ce palier. Après, ça c'est une chose. Après, Malang-Sarr, oui, moi j'ai en tête, j'ai été éduqué de cette manière-là. Mon premier coach a été Jean Fernandez. Et en termes de formateur, alors certes, on pourra me dire ce qu'on veut sur la fin de sa carrière à Nancy, à Montpellier. Jean Fernandez est un entraîneur, que j'ai eu moi, qui est passé par l'OM, que j'ai eu à l'âge de 17 ans. Et lui, quand il est arrivé, il y a des choses qui m'ont marqué. Et alors, ça va te paraître peut-être un peu barbare, mais il rentrait dans le vestiaire, il disait, écoutez-moi bien, s'il y en a un ici, peu importe son statut, qui dans le collectif met en péril le collectif, je lui coupe la tête.
D'accord.
Et il a jamais hésité à le faire. Premier entraînement, on avait comme capitaine Stéphane Morisseau et Sylvain Marchal, et il a pas hésité à écarter les deux, à les faire s'entraîner pour voilà, parce qu'il a estimé qu'à un moment donné, il l'avait pas respecté ou pas. Donc voilà, c'est
pour moi. Attends, Maxime.
Pour moi, le groupe est toujours avant l'individuel.
Alors pour finir,
Balotelli ne fonctionne pas de cette manière-là.
Maxime.
Est-ce que je peux juste répondre, s'il vous plaît ?
Vas-y, Maxime, vas-y.
Donc je vous disais, pour terminer sur Balotelli, ça pour moi, merci pour ta réponse, mais pour moi c'est la réponse totalement française. Vous savez, le rôle justement des grands clubs étrangers qui réussissent, c'est des grands clubs. C'est avant même d'être éducateur, avant d'être entraîneur technique, pardon, vous êtes des managers. Et le management, c'est savoir gérer des stars. Vous savez, quand vous êtes au Real Madrid avec des grands vestiaires, je respecte Jean Fernandez. Non, laissez-moi terminer. Je respecte sa carrière. Il a eu des certains tempéraments, gros forts tempéraments à gérer. Mais vous savez, Balotelli, moi je pense que Balotelli...
Maxime, juste deux secondes. Laisse-moi deux secondes. Tu as regardé le documentaire ou pas? Après je vais oublier.
Non, mais après, chaque personne est un peu différente. T'as vu, Balotelli, c'est un attaquant. C'est un égoïste. Déjà, de nature, par rapport à son poste, c'est un égoïste. Tout le monde le sait. Maintenant, moi, je pense que, regarde, je suis d'accord avec toi sur une chose. Il n'arrive pas à faire deux années complètes à un moment donné à un certain haut niveau. Le talent, et là, on est tous d'accord. C'est un peu comme les Atem Ben Arfa, etc. Ce sont des talentueux. Moi, je pense que ce genre de personne, quand elle trouve un entraîneur qui arrive à trouver les mots, qui arrive à les sensibiliser, comme un peu un Roland Courbis, comme un Harry Redknapp, certains coachs, en fait, qui sont beaucoup plus, même parents limite, que je vais dire, ou managers,
Pascal le grand frère.
Entraîneurs.
Mais non, voilà, mais Maxime, même Mancini qui était son père, il en a eu marre au bout d'un moment.
Il a trahi Mancini. Et le problème, c'est que quand t'es dans un grand club, t'es pas là pour être débité. Tu dois te comporter de manière autonome.
Faut vraiment
brièvement, Maxime. Juste si t'as vu le documentaire, tu parles de management. Est-ce que tu as vu le documentaire où Patrick Vieira, quand même, il a pris des gants avec lui. Hein. Il a parlé, il a expliqué, il a été plus que patient avec lui. Donc, si tu veux, à un moment donné, comme il lui a dit clairement, je suis pas l'entraîneur de Mario Balotelli, je suis l'entraîneur de l'OGC Nice. Et ça me paraît assez clair.
Merci Maxime d'avoir été avec nous au 32-16. On revient juste après ça.
RMC, jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Accompagné de Ludovico Bragnac et de Jonathan Maccardi, tiens, on vous rappelle que vous pouvez gagner des places pour aller voir le 8ème de finale retour d'Europa League à Londres, entre Arsenal et le Stade Rennais. Hier, Rennes s'est imposé 3-1 lors de ce 8ème de finale d'Europa League face à Arsenal. Si vous voulez gagner des places pour aller voir ce match retour jeudi prochain en Angleterre, vous envoyez foot par SMS au 7-32-16. Foot par SMS au 7-32-16. Bonne chance.
Bonne chance.
Tiens, quelques petites infos du jour, les gars. Il nous reste 4 minutes. On parlait de l'OM il y a quelques instants. Vous savez que le président Jacques-Henri Hérault a visité un lycée à Marseille, le lycée Victor Hugo. Il avait publié une photo, enfin un tweet avec des photos. Et l'une, sur l'une d'entre elles, il y avait une jeune fille qui était vêtue d'un maillot du Paris Saint-Germain. Il y a eu énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, eh bien, il a effacé le tweet, le président marseillais, et il a mis ce message. J'ai décidé de supprimer le tweet où apparaît une très jeune fille avec un maillot du PSG. Elle a été insultée et harcelée. Je suis scandalisé que le foot puisse autant dériver vers l'intolérance et la bêtise en ce jour dédié aux droits des femmes. Un combat de plus à mener, dit.
Mais c'est n'importe quoi. Il doit se rendre compte qu'il y a une fillette avec un maillot du Paris Saint-Germain. Il a jamais apposé cette photo. Je suis désolé. T'es président de l'OM.
Oui, qu'on a pas se faire insulter.
Non,
ni harceler,
mais je suis d'accord. Mais sa situation doit jamais arriver. T'es président de l'OM. Tu mets pas une photo dans un hôpital avec un gamin qui a un maillot du PSG. Alors les insultes, on les condamne. Mais je suis désolé.
C'est un lycée. Hein.
Dans le lycée, je les condamne pour la jeune fille. Mais je suis désolé. Tu ne mets pas ça sur ton compte Twitter selon que t'es président de l'OM. Et après, la démagogie, journée de la femme et tout. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Sérieusement.
Non mais
sérieusement, c'est lourd là.
Non mais que il y ait une photo avec une
gamine. Il a pas le mettre, il est président de l'OM.
Non mais d'accord, mais je veux bien. Mais de là, Jonathan. Enfin,
t'as compris ce que j'ai à dire.
Oui, justement. Enfin, tu vois, c'est quand même complètement con.
Bah, c'est complètement con qu'il ait mis la photo. Oui.
Oui, mais ce qui est complètement con, c'est ce qu'il y a derrière.
Ah bah aussi. Mais ça doit. Ouais, mais pourquoi ça arrive ça? C'est parce qu'il met la photo.
Non,
c'est lui le fautif. En fait, chaîne de commandement, je t'ai dit.
Non, mais ce qui est grave, c'est de devoir se dire que quand t'es président d'un club, en fait, faut que tu fasses attention à ce qu'il n'y ait pas un autre maillot sur la photo. Donc c'est ça.
Ah bah, quand t'es président d'un club, t'es garant.
Donc faut en fait que toutes les gamines qui sont autour de toi, les gamins, il faut qu'ils aient un maillot de l'OM, quoi.
Non, attends, j'allais dire, quand t'es président d'un club, t'es garant de l'image de l'institution et des traditions d'un club. Et même si c'est vrai que c'est Canal+, machin, tout ce que tu veux, c'est un club qui a un fort antagonisme avec le Paris Saint-Germain. Et quand t'es président de l'OM, tu ne mets pas une photo.
Il y a rien d'insultant à ce que cette gamine ait ce maillot. Enfin, moi, je comprends pas
mais
ça.
Mais c'est le président de l'OM.
Les gars, continuez d'alimenter le club. Vous savez que ça, c'est de la violence sous d'autres formes. Ouais, complètement.
Mais sauf qu'après, c'est la violence.
Ouais, mais sauf qu'après, ça engendre ce que la gamine elle a subi sur les réseaux sociaux.
Mais moi, ce que la gamine subit sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi.
Mais
c'est répugnant.
Non mais
Jonathan, c'est aussi Jacques-Henri Hérault.
Non. Ce qui est fautif, c'est que on continue de véhiculer des idées selon lesquelles, parce que t'es président de l'OM, si quelqu'un a un maillot du Paris Saint-Germain et que tu postes ta photo, eh bien on légitime le fait qu'elle se fasse insulter.
Bah non, c'est pas maladroit.
Mais c'est maladroit, mais ça ne justifie pas ces violences.
Mais c'est violent. Bah
non,
les gars, Nico, je l'ai jamais.
Voilà pourquoi je ne supporte pas le clubisme. Voilà pourquoi je ne supporte pas le clubisme.
J'ai pas justifié.
Non, tu justifies pas.
Mais c'est d'accord, je n'ai pas justifié parce que c'est scandaleux.
Tiens, également, vous savez qu'aujourd'hui c'est la Journée internationale de la femme. Sachez que la tribune présidentielle du Vélodrome sera exclusivement réservée aux femmes dimanche pour le match entre l'OM et Nice. Le coup d'envoi qui sera donné par une actrice Kenza Fortas et la chanteuse Emma qui avait remporté The Voice Kids en 2018. Tiens, parce qu'on est également sur la journée de la femme, initiative des joueuses américaines qui ont porté plainte contre leur fédération et elles estiment être victimes de la discrimination salariale face à leurs homologues masculins malgré leurs meilleurs résultats sportifs. L'USSF, qui est le nom de la fédé, a complètement échoué à promouvoir l'égalité des sexes, disent-elles dans le communiqué. Ça fait un moment qu'elles mènent ce combat également, les américaines. Tiens, et puisqu'on parle également de foot féminin, RMC qui vous fera vivre en la Coupe du Monde féminine qui va se dérouler du 7 juin au 7 juillet. Sachez que la finale, les demi-finales et le match d'ouverture sont déjà guichets fermés. Voilà, ils sont au-dessus des espérances au niveau des ventes de billets. Petite info également, Sigthorsson et Nantes, c'est terminé. Vous savez qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Il a résilié, il y a un accord qui a été trouvé aujourd'hui.
Il était temps.
Et rappelez-vous, hein, quand il le fait signer, c'est une grande star internationale qui signe, quitte à le prendre comme ça. Grande star internationale qui signe.
Et dans la catégorie blessure bête, nouvelle victime, Souleymane Camara à Montpellier. Je sais pas si vous avez vu ça, info du Midi Libre. Beaucoup de vent du côté de Montpellier. Il va pour fermer son portail. Le portail se ferme sur sa main. Oh. Fracture de la main pour Souleymane Camara.
Ça, c'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle. Non, mais c'est vrai.
Il touche pas Souleymane Camara.
On lui souhaite un bon rétablissement parce que sur la main, c'est pas marrant.
Alors, il pourrait peut-être jouer ce week-end avec une protection.
Bah, tu peux jouer, mais moi, je me suis cassé les mains plusieurs fois. Dans la manière dont ça se casse, après, t'as de l'arthrose et tout en hiver, c'est une horreur. En hiver, je suis comme un petit vieux, je suis ça, tu l'as décrit, je suis pas bien.
Merci. Merci Jonathan. Merci Ludovic.
Merci.
Merci Jérôme Thomas. Et je voudrais juste avoir une grosse pensée pour Olivier Scarmena qui nous a quittés. Voilà, cette émission elle était pour toi, mon Olivier. Et nous on vous dit à demain. Bisous, ciao ciao.
RMC. L'After Foot.